Chers frères et sœurs, ce soir nous avons devant nous cette grande pensée du fait que le Seigneur Jésus est dans le ciel et qu'alors son Église qui est encore ici sur la terre est rattachée au Seigneur et doit aussi avoir des pensées célestes. C'est ce qu'on a bien vu, nous avons exprimé aussi dans notre prière tout à l'heure. Le Seigneur Jésus veut se présenter son Église glorieuse, sans tache, sans ride. Nous l'avons dit aussi dans notre prière. Et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Parce que quand nous pensons à nous, on comprend quel moment que ce sera quand l'Église sera devant lui. Et il se réjouira de la voir auprès de lui. Mais j'aimerais dire aussi, quelle joie pour nous de voir le Seigneur Jésus, d'être près de lui. Maintenant, nous sommes dans un monde de misère, nous l'avons dit. Et c'est vrai, il y a bien des choses qui nous occupent, doivent nous occuper aussi, des choses de la terre. Et bien sûr, ces choses sont nécessaires, mais nous avons toujours, et ça c'est la plus haute, c'est une pensée plus élevée, cette assurance que tout cela, ce qui est ici sur la terre, trouvera sa fin et nous serons là-haut auprès de notre Sauveur et Seigneur. Il est glorifié, lui, dans le ciel. Et de le voir, alors, ça sera quelque chose de tout à fait merveilleux. Nous ne pouvons pas encore nous représenter quelque chose de ce que cela va être, d'être près de lui, de le voir, et aussi de remarquer que toutes autres choses sont passées, ne sont plus là, que c'est seulement le Seigneur qui nous occupe. Et chers amis, c'est déjà maintenant le cas, en tout cas c'est le Seigneur qui le veut, que nos cœurs soient aussi maintenant occupés de lui. Et j'avais pensé à quelques gloires du Seigneur Jésus qui sont présentées et qui sont présentées ici sur la terre déjà et que nous pouvons regarder, voir et desquelles nous pouvons avoir déjà une grande joie de les trouver dans l'Écriture. L'Esprit de Dieu a pris soin de nous montrer dans certains passages tout spécialement quelle gloire que le Seigneur Jésus possède et possédera, qui seront visibles. Et c'est pour cela que j'aimerais lire trois passages, d'abord deux courts passages et encore un autre passage un peu plus grand, plus long, dans l'Évangile selon Jean. Si nous ouvrons la parole, s'il vous plaît, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11 d'abord, et après encore au chapitre 12. J'aimerais lire un passage que nous connaissons très bien, et je ne vais pas expliquer le passage tout en entier, mais simplement montrer une grande ligne. J'espère que ça sera visible. Jean 11, verset 1er. Or, il y avait un certain homme malade, Lazare de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et c'était la Marie qui oignit le Seigneur d'un parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, de laquelle Lazare le malade était le frère. Les sœurs donc envoyèrent vers lui, disant, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jésus, l'ayant entendu, dit, « Cette maladie n'est pas à mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Je m'arrête ici. Situation que nous connaissons très bien, nous avons certainement déjà entendu bien des explications. Je ne veux pas parler des deux sœurs, je ne veux pas parler de Lazare, mais j'aimerais parler du Seigneur Jésus. Nous savons que le Seigneur Jésus a entendu ce que les deux sœurs ont dit, mais il n'a pas tout de suite répondu. Il n'est pas allé tout de suite. Il a attendu encore quelques jours avant d'aller à Béthanie pour ressusciter Lazare, non pas pour le guérir. Ce que nous voyons là, c'est que le Seigneur Jésus était en plein accord avec Dieu le Père, qu'il y a cette unité de pensée du Père et du Fils, et que le Fils attend le moment où le Père veut faire quelque chose de très spécial. Le Père veut donner un témoignage à son Fils qu'il est le Fils de Dieu. Il s'était certainement déjà montré comme Fils de Dieu. Nous connaissons bien des situations où les disciples, par exemple, ou certaines personnes individuelles ont remarqué que le Seigneur était quelqu'un qui n'était pas simplement un homme comme chacun de nous, mais qu'il était vraiment, qu'ils ont posé la question, mais qui est cet homme? Je prends l'exemple des disciples dans la barque, dans le bateau, où le Seigneur Jésus était couché et a dormi, et alors, bon, un homme comme nous, qui pouvait être fatigué, et alors, les disciples le réveillent pour lui dire, écoute, alors il y a une tempête, nous allons périr. Et alors le Seigneur se lève, et il, comment est-ce qu'on dit là en français, il fait taire la tempête. Et non pas seulement la tempête, mais il fait taire aussi la mer. Quelque chose que les disciples n'avaient jamais encore vu. Quand la mer est agitée, elle ne s'arrête pas tout de suite. Mais il y a toujours encore des vagues, nous savons cela, ça c'est clair. Mais alors, pour eux, c'était un miracle absolu. Mais qui est cet homme que la tempête et la mer lui obéissent? Eh bien, comme ça, le Seigneur Jésus avait déjà montré qu'il avait toute puissance, qu'il était en réalité aussi le Tout-Puissant tel qu'il était connu dans l'Ancien Testament. Et qu'il était en même temps un homme. Il avait vu, il était couché là, il était fatigué, et ensuite, il a montré une puissance incroyable. Mais voilà, c'était des individus qui ont vu, les disciples ont remarqué cela. Il y a d'autres personnes qui ont remarqué quelque chose de grand. Pensons à la veuve de Naïn qui a son fils mort, et que le Seigneur a ressuscité ce fils. Il a fait arrêter la bière, oui, merci, pour arrêter et puis pour faire un miracle que personne ne pouvait faire sauf lui. Alors pour certaines personnes c'était déjà clair, mais ici Dieu a en vue de montrer devant beaucoup de monde, tout le village de Béthanie et encore d'autres personnes qui étaient là, il voulait montrer qui est cet homme, Jésus, qui était là au milieu de son peuple, rejeté déjà, haï déjà, et où les scribes, les grands du peuple avaient déjà décidé qu'ils voulaient le faire mourir. Cet homme-là, ah, il est le Fils de Dieu. La gloire de Dieu devait être montrée. Et ce que Dieu voulait faire, c'est montrer la gloire du Fils de Dieu. Et en même temps, et c'est ce que je trouve remarquable, c'est que le Seigneur, qui est le Fils de Dieu, est quand même là aussi toujours dans une unité de pensée absolue avec Dieu le Père. Il attend, parce que c'est la pensée de Dieu le Père. Et lui, le Fils, est tout à fait un avec lui. Après, nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Après, quand le Seigneur va ressusciter Lazare d'entre les morts, à ce moment-là, le Seigneur dit encore une prière. Lisons juste encore cette prière qu'il a dit au verset 41. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que toi, tu m'as envoyé. » Qu'il était l'envoyé du Père. Mais aussi là, il dit, « Je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. » Il était, je voulais juste le souligner, il est entièrement d'accord, oui, d'accord, c'est peut-être un peu trop faible de dire, mais il était absolument dans la même pensée avec Dieu le Père. Et c'est pour cela que nous pouvons dire, cette situation-là, c'est Dieu le Père qui l'a voulu cette situation pour honorer, pour glorifier son Fils. Que vraiment on savait, lui, il est le Fils de Dieu. Voilà une gloire que le Seigneur a, qu'il avait dès l'éternité, n'est-ce pas? Il l'avait eu toujours. Il était l'Éternel. Et Dieu voulait le montrer. Là aussi, au milieu de son peuple, qui ne le voulait pas. Je m'arrête là pour ce qui est de Jean 11, et je passe à un autre passage à Jean 12. À Jean 12, lisons au verset 12. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant ouï dire que Jésus venait à Jérusalem, prit les rameaux de palmiers et sortit au-devant de lui et criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et Jésus, ayant trouvé un ânon, s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi, viens, assis sur l'ânon d'une ânesse. » Or, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et qu'ils avaient fait ces choses à son égard. Et bien voilà, là Dieu le Père, je répète cela, Dieu le Père prend encore une occasion maintenant. Après, quand ils avaient déjà décidé, les grands verset 10, des principaux sacrificateurs tinrent conseil afin de faire mourir de faire mourir aussi Lazare, car à cause de lui plusieurs des Juifs s'en allaient et croyaient en Jésus. Voilà, c'est ce qu'ils avaient décidé. Tuons celui-là, ce Jésus de Nazareth, et tuant aussi Lazare, pour qu'il n'y ait pas de témoignage. Ah, Dieu ne se laisse pas interrompre dans ses plans, dans ses conseils. Il voulait absolument rendre clair qui était le Seigneur Jésus, maintenant au milieu de son peuple. Et alors, il a donné encore au Seigneur Jésus cette situation où des personnes viennent, comme nous avons lu, une grande foule prit des rameaux de palmier et sortit devant lui et criait « Hosanna qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Oui, le roi d'Israël, il était le roi d'Israël, il avait tous les droits. On ne les lui a pas donnés, ils n'ont pas accepté, mais il avait tous les droits. Et Dieu donne cette situation aussi au Seigneur pour que vraiment soit rendu clair, celui-ci, c'est le Fils de Dieu du peuple, mais celui-ci est le roi d'Israël, c'est mon roi, c'est celui que moi j'ai installé. Alors il fait ce qui est dit dans Psaume 2, par exemple, là où le psalmiste parle du Fils de Dieu qui est en même temps le roi, qui est celui qui est de l'autorité, et en même temps encore aussi le psaume 8 où il est parlé aussi de cela, aussi du fait que il y avait des enfants aussi qui ont fait cela. C'est très très beau de voir ceux qui n'étaient pas encore, disons, déformés dans leur esprit. C'est pour cela que quelquefois nous trouvons des enfants. Le Seigneur les nomme aussi quelquefois. Parce qu'en général, les autres étaient influencés par ceux qui étaient contre le Seigneur et sont devenus aussi des rebelles. Voilà une situation où le Seigneur trouve aussi cette gloire de roi, cette gloire du Messie. Dieu prend soin de son Fils pour montrer encore ici, quelques jours avant que le Seigneur Jésus allait mourir, quelques jours avant encore, clairement, il est Fils de Dieu et il est Messie promis déjà très très longtemps avant. Celui qui était le roi d'Israël, le roi que Dieu a donné à Israël et par lequel Dieu voulait gouverner, régner dans son peuple. Et passons maintenant à un troisième passage, et ce passage va nous occuper un peu plus longtemps parce que il y a des choses qui aussi nous concernent beaucoup. Je lirai dans le même chapitre à partir du verset 20. Or, il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ceux-ci donc vinrent à Philippe, qui était de Bethsaïda, de Galilée, et ils priaient, disant, « Seigneur, nous désirons voir Jésus. » Philippe vient et le dit à André, et puis André vient et Philippe, et ils le disent à Jésus. Et Jésus leur répondit, disant, « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui affectionne sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Il vint donc une voix du ciel, et je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. La foule donc, qui était là et qui avait entendu, dit un coup de tonnerre avait eu lieu. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus répondit et dit, cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. Or, il disait cela pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Nous voulons lire jusqu'ici. Une autre situation, un peu surprenante, parce que pour la fête, il s'agit ici de la fête de Pâques, pour cette fête-là, bien sûr, les Juifs, les Israélites, les hommes devaient venir. Nous savons trois fois par an, tous les Israélites, les hommes, devaient venir au temple et à Jérusalem pour fêter la Pâque, pour fêter la fête des semaines ou bien la Pentecôte, et troisièmement aussi la fête des... l'expression française, l'Orputenfest, fête des tabernacles, oui. Merci, c'est trois fêtes, alors ils devaient venir. Mais c'était des Israélites. Ici, ce ne sont pas les Israélites qui sont mentionnés, mais des Grecs. Mais les Grecs n'appartenaient pas au peuple de Dieu, au peuple terrestre de Dieu. Alors, situation toute nouvelle. Et alors, ces Grecs viennent, ils ont un cœur, ils ont un désir, ils veulent voir le Seigneur Jésus. D'ailleurs, c'est très très beau de voir ça. Et quelquefois, nous devrions aussi faire notre cette demande que les Grecs ont. Oh, Seigneur, nous aimons voir Jésus. Que ce soit aussi notre demande tant de fois où le Seigneur veut se présenter à nous. Nous ne lisons d'ailleurs rien de cette rencontre. Nous pouvons être sûrs que le Seigneur a aussi parlé à ces Grecs. Il le fait toujours. Quand on lui parle, quand il y avait un besoin que le Seigneur a remarqué, il a aussi répondu. Il n'a jamais dit, alors, pas maintenant. Et pensons par exemple à ces mères qui étaient venues avec les enfants. Alors, les disciples trouvaient que ce n'était pas le moment. Ah, le Seigneur a dit, laissez venir les enfants. C'était pour lui, c'était toujours l'occasion d'avoir des contacts avec les personnes. Là aussi, certainement. Mais ici, la parole ne nous le dit pas, nous n'en parle pas, mais nous dit des choses plus élevées. Les choses plus élevées dans le sens que le Seigneur Jésus voit maintenant. Il y a une nouvelle situation. Et il dit, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Le Fils de l'homme soit glorifié. Glorifié en quoi? Nous pouvons voir que la pensée du Seigneur va beaucoup plus loin que nous ne pensons. Le fait que les Grecs étaient venus, c'était un point, pour ainsi dire, un point de départ pour que le cœur du Seigneur puisse s'ouvrir non seulement pour son peuple, mais aussi pour tous ceux qui étaient intéressés à le connaître, qui étaient touchés par lui-même. Mais il dit en même temps, et tout de suite après, quand il dit cela, le Fils de l'homme sera glorifié, ça sera, oui, il faut que je dise ça, ça sera une gloire spéciale du Seigneur, qu'il sera glorifié comme le Fils de l'homme. Qu'est-ce que c'est le Fils de l'homme? Nous connaissons cette expression, elle se trouve déjà dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, nous, bien sûr, Dieu le savait aussi dans le temps de l'Ancien Testament, que son Fils allait venir. Qu'il allait venir ici comme un homme, le Fils de l'homme. Et la seule possibilité pour sauver, pour sauver des hommes de leur misère morale dans le péché, la seule possibilité était qu'un homme vienne, un homme, mais un homme avec certaines grandes qualités vienne. Ce n'est pas Dieu simplement qui dit, alors bien, je te sauve. Non, non, non. La question du péché joue un grand rôle dans la question qu'un homme peut être amené à Dieu et peut être sauvé de cet état misérable dans lequel il est à cause du péché qui est venu dans le monde et qui a envahi tout le monde tout entier. Et qui a fait aussi de chaque homme un pécheur. Et à part cela, encore, chaque homme a commis beaucoup de péchés, nous le savons. Quand nous regardons dans notre vie, nous le savons. Et nous avions besoin d'un sauveur. et ce sauveur ne pouvait être qu'un homme. Mais, je répète, ça ne pouvait pas être n'importe quel homme, ça devait être un homme qui porte le nom de Fils de l'homme, que Dieu a donné, que Dieu a envoyé, que Dieu a envoyé ici sur la terre, qui est devenu homme, qui a pris part à tout ce qui concerne un homme, et qui est venu comme le deuxième, non, le second homme, je crois on dit, le second homme, le second Adam, celui qui plaît à Dieu, celui qui n'a pas péché, celui qui est entièrement pur, celui qui a plu à Dieu à tous égards, qui n'a jamais été désobéissant, qui n'a pas une pensée de mauvaise qualité. Un tel homme était là maintenant sur la terre. Dieu l'avait donné. Aucun autre n'était capable d'accomplir une telle œuvre. Et c'est pour cela que le Seigneur prend maintenant encore un deuxième nom, dans un certain sens. Il prend le nom de du grain de blé. Grain de blé. Il parle de lui-même. Le grain de blé, il emploie ainsi une image que certainement les gens qui étaient autour de lui comprenaient. Un grain de blé devait tomber dans la terre, devait mourir. Le Seigneur le dit ainsi, mourir. Le grain de blé ne serait plus là après, mais à ce moment-là, il portera beaucoup de fruits. Si le grain de blé, alors lui-même, ne tombait pas dans la terre, n'allait pas mourir, il n'y aurait pas de fruits. Mais Dieu voulait du fruit. Son amour voulait du fruit. Son amour a donné le Seigneur Jésus comme le Fils de l'homme, comme celui qui était le sauveur du monde, comme les Samaritains ont dit en Jean 4. C'est ainsi que le Seigneur Jésus était prêt à mourir. Le grain de blé est tombé en terre et a porté beaucoup de fruits. Et le grain de blé est mort. Il a dit, s'il ne meurt, quand il tombe en terre, s'il ne tombe pas en terre, excusez, mais s'il, non, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, et ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est ce que le Seigneur a fait, il est mort. Et d'ailleurs, il y a encore peut-être une petite liaison que nous trouvons avec le mot « le mort », la mort. La mort du Seigneur, le grain de blé est mort, et alors le fruit qui en ressort, c'est un fruit qui est la conséquence, si on peut dire, la suite de la mort du Seigneur. Et maintenant, nous comprenons aussi que le fruit, ce sont les personnes, ce sont nous. Ce sont des personnes qui se convertissent, des personnes auxquelles le Seigneur donne maintenant une nouvelle vie. Mais alors, ils sont aussi morts, morts avec Christ. Cette vérité qui est développée plus tard dans les Épîtres, d'être mort avec Christ, cette vérité se trouve un peu déjà dans cette expression « le grain de blé meurt et porte beaucoup de fruits » par la mort. Et ça, c'est d'ailleurs dans ce petit mot se cache une grande vérité. D'ailleurs, nous trouvons déjà un peu en image cette vérité dans le fait quand il s'agit de la communion avec le Seigneur avant, quand il y a le repas de le souper qu'on a fait à Béthanie au Seigneur, pour le Seigneur, quand il y a Lazare. Là, il est parlé de Lazare qui est le mort. C'est une expression imagée du fait que pour avoir communion avec le Seigneur, être à table avec lui, il fallait la mort. Il fallait être mort. Pour nous, c'est la même chose. Notre vieil homme, il est mort. Et ça, c'est vrai, et c'est déjà, se trouve déjà aussi dans ces paroles que le Seigneur dit ici. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et bien maintenant, le Seigneur dit quelque chose concernant ces personnes qu'il a nommées le fruit. Et il dit, maintenant ce sont des questions personnelles. Celui qui affectionne sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde-ci, la conservera pour la vie éternelle. Ah ! Alors là, le Seigneur dit, maintenant, c'est une question très personnelle de responsabilité. Si vous voulez rester lié à ce monde mauvais, à ce monde rebelle qui sera jugé, plus tard, le Seigneur a dit, maintenant, c'est le jugement du monde. Si vous voulez rester là, vous perdrez tout. Ce qui vous reste, quand vous voulez garder cette vie sur la terre, dans ce monde plutôt, si vous voulez rester attaché à ce qui était avant, vous ne voulez pas accepter le Seigneur, vous perdrez la vie. Mais si vous... Et celui qui est sa vie dans ce monde, qui dit non. Non, ça, c'est tout à fait... ce n'est rien. Ce n'est rien pour moi. Il la conservera pour la vie éternelle. Alors, le Seigneur met tout de suite aussi la responsabilité personnelle devant les yeux. Est-ce que vous voulez... Restez dans le monde. Est-ce que vous voulez vivre comme dans le monde? Vous n'acceptez pas le Seigneur. Si vous ne voulez pas vivre dans ce monde, que vous dites non, pas du tout, mais je veux le Seigneur, alors à ce moment-là, vous aurez la vie éternelle. Et puis, le Seigneur ajoute encore quelque chose qui est très beau. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, moi, là aussi, sera mon serviteur. Et il ajoute encore, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Oh, chers amis, si quelqu'un me sert, vous voulez, nous voulons servir le Seigneur, nous voulons être là pour lui, nous voulons avoir un cœur pour lui, nous voulons être obéissants à sa parole, nous voulons le suivre. Suivons-le. Suivre, ça veut dire aussi voir où il va, voir, regarder bien quel chemin il prend, voir très bien ce que le Seigneur aime et ce qu'il n'aime pas pour le rejeter. Alors, si vous voulez me servir, vous devez me suivre. Mais je vous promets encore une chose, et la promesse qui est là est très belle, et là où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. On peut le comprendre de deux façons. Là où je suis, là sera aussi mon serviteur, c'est-à-dire communion avec le Seigneur. Le serviteur a de communion avec son chef, disons, oui. Et deuxième idée, deuxième pensée, là où moi je suis, là où je serai aussi, où le Seigneur est maintenant dans le ciel, là sera aussi mon serviteur. Il y a encore autre chose que le Seigneur dit, par exemple à la fin de l'Apocalypse, il dit encore qu'il y a aussi une récompense, que celui qui est fidèle dans son service pour le Seigneur, il recevra même une récompense. Ici, le Seigneur dit une chose, une récompense, à la fin, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. cela plaira au Père, au Dieu le Père. Et nous pouvons vraiment aussi nous poser la question, est-ce que nous ne voulons pas suivre le Seigneur? Est-ce que nous ne voulons pas aussi faire de la joie à Dieu le Père, faire de la joie à notre Seigneur? Nous savons bien que nous pouvons bien employer aussi des images que nous comprenons bien. Il y a des parents, il y a le papa et il y a l'enfant. Et l'enfant sait très bien que le père, son papa, se réjouit quand l'enfant est obéissant. Se réjouit de voir que l'enfant, par amour pour son père, fait ce que le père veut. Nous connaissons ça, c'est très simple, mais nous et que fera le papa? Il fera sentir à son enfant que ce que l'enfant fait dans l'obéissance, que cela lui plaît. Peut-être quelquefois simplement par le fait qu'il met sa main sur la tête et montre son affection. Et montre son appréciation de ce que l'enfant fait. Très simple, exemple très simple, mais qui parle quand même. Et c'est là aussi que nous trouvons ici. Nous voulons honorer notre Dieu et il donne une réponse. Mon Père l'honorera. Et j'ajoute encore quelque chose. Quand le Père honore un des serviteurs du Seigneur, cet honneur pour le serviteur tombera sur celui qui a donné le service. Nous connaissons tous Apocalypse 4, où nous avons cette pensée, où ceux qui étaient fidèles, ils ont reçu une couronne. Ils ont reçu une récompense, une couronne. Pour quoi faire? Pour être fiers? Eh bien non, mais simplement pour la donner, pour la mettre aux pieds de celui qui a tout fait, même le service que nous pouvons faire, nous savons bien qu'en réalité, c'est le Seigneur qui a donné la force, qui a donné la conduite, qui a tout donné pour qu'un service puisse lui plaire. Mais quand le Seigneur a parlé justement de cette mort dont il est qui est question pour le grain de blé, là il dit encore « Maintenant mon âme est troublée ». Et chers amis, cela nous touche profondément. Quand le Seigneur pense à cela, il sait bien que maintenant il y aura il arrivera dans une situation la plus difficile, la plus dure pour lui. Mon âme est troublée. Il dit, et que dirai-je? Si quelqu'un d'entre nous dirait, et que dirai-je? C'est que nous n'avons pas de réponse. Le Seigneur a une réponse. Il pose encore une question, une deuxième, dans le texte original grec. Ici, ce n'est pas marqué comme question, mais en réalité, c'est aussi une question. Père, délivre-moi de cette heure. Père, délivre-moi de cette heure. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Est-ce que c'est cela que je dois dire? Père, délivre-moi de cette heure. Il donne ensuite directement la réponse. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Voilà la réponse à cette question. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Est-ce que c'est là ce que je pourrais dire? Non. Mais c'est pour cela que je suis allé dans cette heure. C'est l'obéissance absolue. Et c'est aussi l'unanimité, on peut dire, de Dieu le Père et le Fils. Pardon ?
Unité.
Unité, oui, unité du Père et du Fils. C'est pour cela que je suis venu à cette heure. C'est pour cela que je suis venu à cette heure. C'est pour cela que je suis venu sur la terre. C'est pour cela que je me suis soumis à tout ce qui est un homme. Et c'est pour cela que je suis venu à cette heure indicible, exactement pour cela, pour mourir, et pour mourir une mort qui n'est pas une mort, et je dirais ça absolument exprès, une mort normale, telle que nous la connaissons, comme ça, nous savons bien qu'un homme meurt, et c'est normal. Non, sa mort c'était autre chose. Il savait bien ce que cela voulait dire, ce qu'il serait, qu'il porterait les péchés de nous tous, tous les péchés de nous tous qui croyons, et qu'il recevra le jugement de Dieu, du Dieu saint, le jugement absolu sur le péché. Alors il parle ici, sans que ça soit nommé, il parle ici des 3 heures des ténèbres où le Seigneur sera dans le jugement, sous le jugement de Dieu, du Dieu saint et juste, où il portera les péchés de nous tous. Vous avez un cantique, et il me touche chaque fois. Dans ces heures, d'un moment ou dans ces... Tu portas l'éternité de notre châtiment. L'éternité de notre châtiment. Le poète a su exprimer cela d'une façon à ce que nous voyons un petit peu ce que cela est, combien grand et combien profond, c'est le 46 je crois, oui. Combien profond était la douleur du Seigneur quand il était dans le jugement de Dieu sur le péché. Et il savait bien ce que péché était dans les yeux de Dieu, dans ses yeux. Et il était prêt à se soumettre à cela. Il savait bien aussi, bien sûr, que c'était le seul chemin pour que Dieu soit honoré aussi quant au péché qui était entré dans le monde par nous et qui est une offense journalière. Toujours une offense contre Dieu, le saint Dieu, qui ne peut voir le péché, comme il est dit en Habacuc, qui ne peut voir le péché, nous ajoutons, sans le punir, sans le juger. Et le Seigneur a porté cela. C'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et là, voilà ce qui est toujours, ce qui était toujours le motif du Seigneur quand il était ici sur la terre, c'était glorifier le Père. D'ailleurs, c'est très beau de voir aussi quant à cela, le motif et le désir du cœur du Père était de glorifier le Seigneur, le Fils. Et le désir du Fils était toujours de glorifier Dieu le Père. Et le désir du Saint-Esprit est toujours de glorifier le Père et le Fils. Et nous voyons ici que le Seigneur exprime cela, Père, glorifie ton nom. Et le Père a glorifié son nom. Il l'avait déjà... Ici, cette voix qui vient du ciel nous le montre, je l'ai glorifié, et nous pouvons penser, et certainement, je crois aussi que c'est juste, que nous pensons à ce qui s'était passé peu avant, par la résurrection de Lazare. Dieu avait glorifié son nom, il avait glorifié son Fils, mais il avait aussi glorifié son nom, parce que c'était unité aussi dans l'action du Père et du Fils. En Jean 12, 11. Et maintenant, Le Père dit « Et je le glorifierai de nouveau ». Et là, c'est déjà une pensée qui est très belle, qui nous réjouit, parce que nous savons que le Père a ressuscité le Seigneur. Le Père a dit oui à cette œuvre qui était parfaite, parfait comme rien d'autre ne pouvait être parfait. Parfait, la perfection du Seigneur en personne, la perfection de son œuvre, la perfection de son amour, la perfection de ses douleurs, de ce qu'il était prêt à subir, toutes ces douleurs. Toute la perfection du Seigneur Jésus a trouvé la réponse. Dieu a ressuscité son Fils. Et il n'a pas seulement, alors seulement, ce n'est pas le bon mot, mais il a ressuscité. Mais il a aussi élevé dans le ciel. Il lui a donné aussi la place à sa droite. Place d'honneur que Dieu le Père a donnée à son Fils. Qui s'est assis, comme il est dit dans un autre passage, assis sur le trône de son Père, parce qu'il était un avec le Père, uni dans cette œuvre de Golgotha. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui maintenant est dans le ciel glorifié, et nous l'attendons comme cela. Mais le Seigneur dit encore avant qu'il termine ici, il dit « Cette voie n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. » C'est maintenant, c'est-à-dire avec le jugement à la croix, c'est maintenant que Dieu a mis fin avec le monde. Est-ce que je m'explique bien? Il a mis fin à tout ce qui concerne le monde. Le monde est jugé. Avec le monde, Dieu n'a plus à faire. Le monde est jugé. Parce que le monde était contre son Fils, parce que le monde s'était montré obéissant à l'ennemi de Dieu. C'est pour cela qu'il est parlé maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. Le chef de ce monde, c'est le diable. Il sera jeté dehors. C'est encore futur à ce moment-là, mais le Seigneur le voit. Il le voit déjà comme résultat de son œuvre. Mais il revient encore avec une phrase à ce jugement de Golgotha. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. Or, il disait cela pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Si moi, je suis élevé de la terre. Et la phrase après nous montre que le Seigneur pense vraiment à la croix, élevé de la terre. Ce sera sa place, la place qu'il prendra. Dans le jugement, il prendra cette place. Le monde dit, loin de lui, loin avec lui, on ne l'aime pas, on ne le veut pas. Rejeté par le monde. Et le ciel, encore fermé. Il est entre ciel et terre, élevé sur la croix. Le ciel s'ouvrira, mais dans les moments extrêmes de son jugement, le ciel était fermé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Voilà. Et quand je serai là, sur la croix, j'attirerai tous les hommes. Je leur dirai, vous pouvez venir. Les Grecs, les Juifs, les Grecs comme des nations, disons exemple de toutes les nations, aussi des Français et des Allemands, etc. Tous les hommes peuvent venir. J'attirerai. Et le Seigneur est attirant. Il attire quand nous avons le bon regard, le regard, un regard dirigé par l'Esprit de Dieu qui veut nous vraiment diriger nos regards sur ce Seigneur, ce Sauveur. Chers amis, nous qui connaissons le Seigneur, qui connaissons le Seigneur comme notre Sauveur, nous avons été attirés par le Seigneur. Et nous pouvons être tout heureux de ce que nous avons remarqué, cette attirance, que nous avons remarqué cette, cette voix qui nous dit « Venez vers moi !» et que nous avons pu venir. Et chers amis, c'est notre joie déjà maintenant d'avoir un Sauveur parfait, un Sauveur et un Seigneur qui veut aussi notre service, un Seigneur qui nous aide dans tous les détails de notre vie, nous le savons, et un Seigneur que nous allons voir et qui viendra bientôt. Nous attendons le Seigneur. Il vient. Il y en a beaucoup qui ont déjà attendu. Il y a des siècles et des siècles que les siens l'ont attendu. Est-ce que nous l'attendons encore maintenant? Mais oui. Et pourquoi est-ce que c'est si sûr que nous l'attendons, qu'il va venir? Il l'a dit lui-même, « Je viens bientôt. » Voici, « Je viens bientôt. » Tout à la fin de l'Écriture, encore le Seigneur répète cela. Et cela, il le dit à nos cœurs. Il met sur nos cœurs vraiment, « Moi, je viens bientôt. » Et l'Église dit, « Amen, viens Seigneur. » Elle n'ajoute pas le mot « bientôt ». Pourquoi? Parce qu'elle sait que le Seigneur viendra aussi vite que possible, que ce sera dans les pensées de Dieu. Et elle montre, l'Église montre par là aussi cette patience, en ne disant pas « bientôt », mais « Amen, viens Seigneur ». Nous l'attendons de tout notre cœur, chers amis, et nos regards dirigés sur lui. Dans la parole, il nous parle. Dans la parole, il nous montre toutes ses beautés. Et dans la gloire, dans le ciel, il nous montrera encore tout ce que nous n'avons pas vraiment vu. Nous serons certainement émerveillés d'une façon à ce que nous ne pouvons pas laisser voyager nos regards. Vous comprenez quand je dis ça? Nos regards ne seront pas là et là et là, mais seront dirigés, fixés sur la personne du Seigneur. Et nous allons voir sa gloire. Dans cette prière du Seigneur, en Jean 17, il dit, « Afin qu'il voie ma gloire que tu m'as donnée. » Ça sera quelque chose. Réjouissons-nous. Est-ce que nous sommes si près de lui et serons si près de lui, avec lui, dans la gloire, dans la maison du Père, dans cette atmosphère d'amour où nous allons le voir, lui, bonheur inexprimable.
Oh, no, why, oh, say, oh, no. 167, la première strophe.